Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Alors pour vous dire, je me suis récemment attardé chez le marchand de journaux et j'ai regardé les linéaires. Pas moins de 15 titres différents pour parler de cuisine sous toutes les coutures. Maxi cuisine, cuisine actuelle, saveur, gueuleton, régal, cuisine et vin de France, resto, marmiton et la table, cuisine génération, même ce magazine fait paraît-il à 100% par une intelligence artificielle. Et bien sûr, en très bonne place sur ses rayons, le nouveau venu, encore un bébé car âgé de moins d'une année, c'est meilleur quand c'est bon. J'en suis sorti en ayant fin de lecture gastronomique, ayant meilleure place dans mon panthéon littéro-culinaire, le fameux encore des nouilles du regretté Pierre Desproges. Fin gourmet et grand amateur de vin, Pierre Desproges fut aussi, on l'ignore parfois, l'auteur de nombreuses chroniques culinaires publiées dans la revue Cuisine et Vin de France. Je ne peux qu'adhérer avec ce qu'il disait. C'est très important de bien manger. Personnellement, je me suis toujours méfié des gens qui n'aimaient pas les plaisirs de la table. Puisque nous sommes entre amis, je vous l'avoue que je m'en méfie aussi. Alors si vous avez aimé Pierre Desproges, vous aimerez aussi forcément les plaisirs de la table, les bonnes choses. Et pour cela, il faut lire, il faut acheter, il faut vous abonner à une revue trimestrielle, sorte d'ovni culinaire, au titre sous forme de truisme, c'est meilleur quand c'est bon. Le numéro 3 est sorti au seuil de l'hiver, alors qu'en tout début de printemps 2024, le numéro 4 arrive ou est sur le point d'arriver. Vous l'avez deviné, c'est donc de gastronomie, mais aussi de recettes simples et familiales, d'établissements authentiques, d'artisans engagés et de presse culinaire, dont nous allons parler tout au long de cette émission. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, l'invité.
Bonjour Emmanuel Jarry et bienvenue.
Bonjour Philippe.
C'est un très grand plaisir de vous accueillir au micro de Complètement à l'Ouest, car vous êtes journaliste et désormais patronne de presse, ouais. Puisqu'avec votre mari Mathieu, que l'on devine derrière la caméra des clips que vous diffusez depuis plusieurs années sur YouTube, vous avez créé la marque C'est meilleur quand c'est bon, qui a d'abord émergé via une chaîne YouTube, 166 000 abonnés au compteur tout de même, avec pour slogan « manger, boire, rigoler, découvrir », et depuis peu, moins d'une année pour être précis, un élégant et formidable magazine trimestriel, 12,90€ en kiosque, le numéro dont nous allons abondamment parler, sans oublier pour couronner cette trilogie en quelque sorte, le site web, la chaîne YouTube, le magazine et le livre de recettes au titre éponyme « C'est meilleur quand c'est bon » paru chez Hachette. Je ne parle même pas de votre page Instagram avec vos 324 000 followers. Mais avant toute chose, est-elle un ingrédient essentiel dans un fond de sauce ? La coutume de cette émission, c'est de commencer par un court extrait sonore, histoire de se mettre en appétit, et nous allons partir dans une région que vous connaissez bien, cher Emmanuel. Je ne vous en dis pas plus, on l'écoute.
On va commencer la recette.
Oui.
Alors pour commencer, il faut des foies de volaille. Des foies de volaille les plus blonds qu'on peut trouver, sans fiel. Il faut de la crème fraîche, épaisse si possible. Des œufs, un peu de lard gras, du persil, des condiments avec un peu de thym, un peu de sragon, de sauge, de céleri, de l'ail, de l'oignon, une carotte. Pour ça, c'est pour faire la sauce tomate. Parce qu'avec le gâteau de foie de volaille, on fera une sauce tomate, mais toute simple. Avec de belles tomates rouges, un peu de champignons, quelques olives.
Alors, et le poivron ?
Ah bien, le poivron, ça sera juste pour en mettre un tout petit peu pour donner à la sauce tomate ce petit piquant qui lui manque.
Et derrière le poivron, il y a du lard ?
Le lard, toujours, parce que vous savez, pour faire une bonne sauce tomate, il faut faire revenir le lard avec les oignons, les tomates fraîches, on les cuire et on passe. Une sauce tomate très 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 simple.
Alors, je ne vous ferai pas l'injure de vous demander si vous avez reconnu cette voix, l'accent...
Paul Bocuse.
Voilà, exactement. Alors, c'était en effet une vidéo de Lina qui n'est pas d'aujourd'hui, puisqu'elle date du 17 septembre 76. On a regardé dans la boîte à archives de Lina. Et bien sûr, le gâteau de foie de volaille, vous sachant natif de la Bresse, pas très loin, j'aurais pu choisir la recette de la volaille à la crème, mais le summer body arrivant, je me suis un petit peu réfréné. J'aurais pu aussi choisir Jean-Pierre Coff et son inimitable « Mais c'est de la merde » ou encore Louis de Funès, « The menu please », mais pas du tout, il s'agissait bien sûr de Paul Bocuse. Alors Emmanuel Jarry, et pour paraphraser cette tirade dans les fourberies de Scapin, que diable allez-vous faire dans cette galère, j'entends par là, cette aventure éditoriale consistant, excusez du peu, à lancer un magazine papier tout en étant et en vous revendiquant votre indépendance.
Oui, oui, bah c'est qu'est-ce qu'on est allé faire dans cette galère, effectivement, parce que en plus de lancer un magazine papier, étant donné qu'on est indépendant, on a créé notre maison d'édition, les éditions du meilleur. Donc il a fallu d'abord créer cette maison d'édition, ce qui n'a pas été simple. On est 4 associés et ensuite on a lancé cette revue. Pourquoi le faire comme ça? Parce que comme ça, ça nous permet d'être totalement indépendant et de raconter exactement ce qu'on veut. On sait quand même que la presse est un peu régie par la publicité. Donc il y a quelques publicités, mais en tout cas, elles ne gouvernent pas le contenu de la revue. Et pourquoi moi j'ai eu envie de renouer, j'ai été journaliste pendant 15-20 ans. J'ai plus ma carte de presse, que maintenant je suis patron de presse, mais je l'ai pas redemandé, mais j'ai été journaliste, j'ai écrit beaucoup, j'adore ça. Et les vidéos, c'est bien, on fait passer des idées, mais ça reste très court. Et c'est, donc ça nous permet d'aller plus loin. Et d'ailleurs, dans le numéro 3, puisque le 4 arrive bientôt, mais dans le numéro 3 de la revue, j'ai commenté tout mon sommaire, et il est vraiment en lien avec nos vidéos. C'est-à-dire que, par exemple, on fait le portrait là d'un maraîcher en Guadeloupe qu'on avait rencontré avec Mathieu Pansard, donc qui est réalisateur. Je le précise, c'est mon mari, mais il est avant tout réalisateur parce que dans une...
On voit jamais sa tête d'ailleurs.
Non, on le voit jamais, mais en fait, comme tout le monde dit, votre mari, il m'a dit, mais j'avais une vie avant toi. Mais j'ai dit tant mieux parce que pour une fois, c'est dans ce sens-là. C'est le mari d'eux, pas la femme d'eux. Et donc, on avait rencontré ce monsieur et je m'étais dit, il est vraiment extraordinaire. J'avais envie de faire un portrait de lui, mais les vidéos on n'a pas ce genre de format. Donc, je m'étais dit un jour, comment parler, par exemple, plus longuement des personnes formidables que je rencontre, et la revue, c'est ça.
Alors, presque un an après le lancement de votre magazine, quel bilan, pas seulement économique, mais aussi en termes d'expérience entrepreneuriale?
J'ai appris en un an et demi, plus qu'en 20 ans peut-être.
Le temps s'est accéléré?
Ah oui, alors le temps s'est accéléré, effectivement. J'expliquais récemment pourquoi je me lève à 5h du matin et je me couche à minuit. C'est parce que les vidéos, c'est quasiment un boulot à plein temps. Et la revue, disons, à 80% du temps, donc ça fait 180%. Donc à un moment donné, il faut trouver du temps quelque part. Ce qui est génial aussi, c'est de travailler en équipe. Avec les vidéos, on travaillait à deux, Mathieu et moi, et puis peut-être un monteur de temps en temps. Là, on a toute une rédaction. Donc les pigistes, une rédactrice en chef, Sylvie Gendron. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire, créer une société, ça n'a rien à voir avec être journaliste que j'ai fait pendant 15 ans, mais j'adore.
Alors, je le disais, le groupe, si je puis appeler ça comme ça, c'est meilleur quand c'est bon, c'est votre trimestriel, mais aussi vos centaines de vidéos diffusées sur la chaîne YouTube éponyme. Combien de vidéos d'ailleurs?
Si on compte tout, pas loin de 500 peut-être, parce qu'on a les recettes, les restaurants, tout ça.
Alors, il y a quelques vidéos fétiches, vous le rappelez souvent, notamment une vidéo qui a été faite il n'y a pas si longtemps que ça, en 2019, le fameux chez Erwan, un petit village, une petite ville, un petit village quelque part dans les Yvelines, hein, c'est ça?
Tout à fait, pas loin de Rambouillet.
Voilà, et cette vidéo-là, on va en écouter un très court extrait sonore, c'est celle notamment qui, peut-être pendant la période du confinement aussi, qui a considérablement boosté la notoriété de ces meilleurs conseils, c'est ça?
Oui, c'est ça. Nous, on avait créé ces meilleurs conseils fin 2016, donc on va dire 2017-2018. Donc quand est arrivée cette vidéo en avril 2019, je me souviendrai de la date, 3 avril 2019, parce que ça a été tellement incroyable pour nous. On avait 3000 abonnés et on a fait... alors aujourd'hui, à ce jour, on a 40 millions de vues sur l'ensemble des... Enfin, je crois sur Facebook avec cette vidéo, mais bon, elle est partout. Et... on est passé de 3000 abonnés à 300 000 en quelques mois, quoi. Donc ça, c'était fou. Puis après, effectivement, comme vous avez dit, il y a eu le confinement, et donc une autre aventure avec les recettes, les restaurants étant fermés.
Je sais pas si on peut écouter un court extrait de cette courte vidéo.
Tu sais que celle-là, elle est amortie, hein.
Vous cuisinez au feu de bois?
Vous allez voir, tout se fait là-dedans, ou presque.
Là, on est à Bourdonnais dans les Yvelines, une petite ville des Yvelines, et on va au restaurant chez Erwan. Là, t'as vu, qu'est-ce qu'il y a marqué? Restaurant Pizza Grill.
Ouais.
Et là, qu'est-ce que tu lis?
Je sais pas, je lis pas là.
Plus de pizza, ni à la carte, ni à emporter.
Très bien.
Donc c'est intéressant. Une pizzeria qui fait pas de pizza.
Ouais, alors la vidéo dure quelques minutes, c'est 4 minutes, faut absolument la regarder parce que cet artisan, il est juste incroyable. Qu'est-ce qui fait qu'on devient vous parlez de votre passé de journaliste culinaire, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à la cuisine et en voulant en faire son métier, en écrivant, en faisant en propageant ce bon goût quelque part?
Parce que je suis née comme ça. Alors pourquoi j'aime tant manger? Je suis dans une famille quand même qui s'intéresse m'intéresse au plaisir de la table.
Vous venez de Bourg-en-Bresse.
Voilà, ouais, tout à fait. Mais je connais des gens des Bressans qui n'aiment pas manger.
Ouais.
Mais bon, c'est vrai que c'était important, mais c'était particulièrement important dans mes deux familles, paternelle et maternelle. On était de la Dombe, enfin, je suis née à Bourg-en-Bresse, mais j'étais originaire de la Dombe. Et on en parlait beaucoup. Cependant, mes parents n'ont pas du tout fait de métier autour de la table. Mes cousines, tout ça non plus. Donc, il se trouve que moi, ma mère m'a toujours dit, quand t'étais enfant, t'avais déjà ce goût pour le fait de manger, etc. Et j'ai fait une fois une comparaison un peu hasardeuse, mais je la redis parce que je crois qu'elle est vraiment vraie. J'ai entendu une fois Rocco Siffredi, l'acteur de porno, dire que sa façon de voir le monde, son prisme pour voir le monde, c'était la sexualité. Moi, c'est la cuisine. Mmh. Et encore une fois, pas uniquement pour manger, mais pour, comme on le fait dans la revue là, analyser le monde qui nous entoure à travers le culinaire.
C'est l'occasion qui fait le lardon, si je puis dire.
Pardon ?
C'est l'occasion qui fait le lardon,
oui,
si je puis dire.
C'est ça.
Alors, si on en vient à votre magazine, c'est meilleur quand c'est bon. Votre premier numéro, le dossier avait pour titre « Arrêtons de manger idiot ». Dans le numéro 2, vous intéressiez notamment à la viande, y compris à la chasse. Le titre, c'était « Faut-il mettre du sentiment dans nos assiettes ?». Dans le numéro 3, vous intéressiez au vin, avec ce titre qui fleure bon. On le rappelait tout à l'heure, Michel Audiard. Il y a du raisin, mais pas que. Qu'est-ce qui guide le thème de vos dossiers? Si je voulais être provocateur, c'est juste, entre guillemets, l'envie d'en découdre afin que les consommateurs que nous sommes se réveillent et connaissent l'envers du décor?
Oui, enfin, c'est surtout parce que... Alors, c'est aussi des questions que je me pose. Par exemple, dans le numéro 1, on avait fait une grande enquête sur les gares, les restaurants de gares et sur les aires d'autoroute. Parce que à chaque fois que je passe la frontière dans le sud, c'est-à-dire en Italie, Espagne ou même au Portugal, je me dis, on mange très bien dans les gares ou sur les aires d'autoroute. Pourquoi pas en France? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même l'Europe. Enfin bon. Et donc, qu'est-ce qui... Enfin, vous me direz, ça n'a rien à voir pour le coup. C'était, mais bon, les tarifs sont pas les mêmes, etc. Et donc, je me suis longtemps posé la question. Je crois que je l'avais un peu suggéré à des magazines pour lesquels je travaillais et ils n'avaient pas retenu ces sujets. Donc, quand j'ai eu ma revue, j'ai dit, je vais enfin pouvoir traiter des sujets qui me plaisent. Et donc, Pierre Bafoy, qui est un super journaliste indépendant, a fait cette enquête. Et pareil pour la viande. Alors, la viande, c'était plus en écho avec les vidéos parce que je suis allée filmer dans un bureau. Dans l'Aveyron, je crois, de mémoire, c'était dans l'Aveyron. Et en fait, il y avait une éleveuse. Elle élevait ses vaches et ensuite elle les servait à table puisque c'était comme une table d'hôte, quoi, dans son bureau. Et les gens, donc, on est allé voir ces vaches magnifiques. Et après, on les a mangées, mais pas directement.
Elle
commercialise sa viande. Et il y a certaines personnes se sont un peu enflammées en me disant, mais comment vous pouvez aller chatouiller les vaches et les manger ensuite? Et donc, j'ai voulu répondre, en fait, que pourquoi j'avais un peu amorcer la chose dans une vidéo en m'énervant, mais là, vous voyez, dans la revue, je ne m'énerve pas, j'explique plus posément les choses.
Non, puis vous parlez de chasse également, vous parlez d'élevage,
et
évidemment.
Et la chasse aussi, parce que moi, j'ai un père chasseur, je suis absolument pas contre la chasse, j'ai voulu comprendre, parce qu'il y a des... En fait, je vais vous dire pourquoi exactement, parce que l'hiver dernier, on m'a invité à une chasse à cours. J'ai pas pu y aller, mais quand j'en ai parlé à certaines personnes, on m'a dit, mais c'est impossible, tu peux pas faire ça, c'est trop clivant, si on te voit, même pour toi, pour ton image, et puis même, tu peux pas cautionner ça. Et moi, en fait, je cautionnerais le jour où j'aurais vu ou j'aurais pas vu. J'ai pas d'a priori là-dessus. Et puis surtout, c'est des traditions telles qu'on m'avait parlé de la chasse à cour. Donc, j'ai voulu comprendre pourquoi il y avait autant de passion d'un côté, de haine de l'autre. Et donc, parfois, on essaye de prendre parti. Mais là, j'ai demandé au journaliste Stéphane Méjanès, est-ce que tu peux juste faire un état des lieux et interviewer des deux côtés, les pro-chasse, les anti-chasse, qu'on entende leurs arguments.
Absolument, et c'est vraiment un dossier extrêmement bien fait. Alors, on va marquer tout de suite une courte pause musicale avec le titre que vous avez choisi, Emmanuel Jarry, c'est de Bourville, La Tendresse. Et en effet, la question spontanée qui me vient à l'esprit, est-ce que c'est en lien avec la cuisine au beurre de Bourville ou la traversée de Paris avec Jambier 2000 francs?
Alors, en fait, quand je pense à Bourville, je pense surtout, alors, soit à cette chanson que j'aime beaucoup, soit, vous savez, salade de fruits, jolie,
ouais,
jolie,
ouais,
voilà,
sûr.
C'est à ça que je pense plutôt.
J'oublie aussi celle-là.
Côté culinaire.
Allez, on l'écoute.
On peut vivre sans richesse. Presque sans le sou, des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire. Et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse
qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 long. Le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin.
Complètement à l'ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Allez, de retour à l'émission avec Emmanuel Jarry qui dirige l'excellent trimestriel C'est meilleur quand c'est bon. Il y a quelques mois, il y a eu la sortie du film La Passion d'Audin Bouffant, film de 2h30 au cours duquel on voit Benoît Magimel et Juliette Binoche dans la chaleur d'une cuisine du 19e siècle. On les voit émondés, coupés et braisés. À défaut de s'avouer leurs sentiments amoureux, et bon, notamment Pierre Gagnaire a été le conseiller culinaire de ce film. Question, il y a dans le numéro 3 de quand c'est meilleur quand c'est bon, de votre revue, quelques pages consacrées à l'art de la table, avec une interview de l'historien Patrick Rambourg à l'occasion de la réédition de son livre L'art de la table. Et la question que je me posais, c'est au-delà du fait d'aller dans les grands restaurants et fréquenter les meilleures tables, quels sont les arts de la table en ce début de 21e siècle?
Alors là, on parle de l'art en tant que tel, c'est-à-dire non pas la façon de manger, mais la vaisselle, les arts de table comme ça.
De se retrouver à table.
De se retrouver à table. Je sais pas, en fait, aujourd'hui, il y en a peut-être de moins en moins. En tout cas, je le constate quand je vais manger chez des amis. Et puis, il y a cette mode des apéros dînatoires, qui font d'ailleurs qu'on mange de moins en moins de viande rouge ou de pièces entières, mais beaucoup de charcuterie, parce que c'est facile à manger comme ça, avec les doigts. Donc, c'est peut-être ça, les nouveaux arts de la table, manger avec les doigts. Pourquoi pas, hein. Il se trouve que moi, j'ai voyagé une fois en Mauritanie pour un reportage, et on m'invitait à manger avec les doigts, et j'avais expliqué à mon guide que je pouvais pas, parce que dans ma culture, on mange avec une cuillère ou une fourchette, et je sais pas manger avec ma main, je savais pas manipuler. Et je trouve ça extraordinaire quand dans certaines cultures c'est la tradition, et il m'apprenait à faire des boulettes avec le riz
en Asie aussi,
voilà,
bien sûr,
pour pas en mettre partout. En Asie on mange comme avec des baguettes aussi, mais peut-être avec les doigts, oui, dans certaines cultures. Mais en tout cas, lui, il avait vraiment une façon de malaxer. Mais je trouverais ça dommage chez nous qu'on en vienne à manger avec les doigts, parce qu'on a des arts de la table et à chaque culture ses façons de manger, quoi.
Par la force des choses, ne serait-ce que par la réalisation de vos vidéos, de vos rencontres pour les reportages édités dans votre revue, je me suis toujours posé cette question. Comment vient l'inspiration au chef? Qu'avez-vous observé sur le sujet justement de cette magie de la création d'un chef qui arrive à imaginer, à mettre ensemble des ingrédients pour au final sortir quelque chose de bon, voire de très bon?
Pour en avoir interviewé quelques-uns, parce qu'avant de créer C'est meilleur quand c'est bon, j'étais journaliste et donc j'ai fait beaucoup de portraits de chefs. Ce qui est étonnant, c'est que tout les inspire, mais souvent, comme tous les artistes, je me souviens d'un chef qui me disait: je vais me balader aux Tuileries et la forme d'une feuille, la couleur d'une feuille, une odeur, une texture, même la main sur un velours, ça peut me donner des idées. Donc en fait, comme tous les autres artistes, la vie qui les entoure les inspire, je pense, pour les bons chefs.
Alors, entre chef et cuisinier, il y a notamment dans le numéro 2, me semble-t-il, de C'est meilleur quand c'est bon, il y a un article avec le titre « Tout le monde veut être chef, mais personne ne veut être cuisinier ». C'est quoi la différence entre un chef et cuisinier? Et pour le premier, est-ce que c'est forcément passé à la télé dans une émission en prime time?
En tout cas, c'est ce que disait Vincent Fernio dans son billet d'humeur que vous venez de citer. Peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes, comme il y a toutes ces émissions et les réseaux sociaux, ont l'impression qu'être chef, c'est juste se prendre des selfies devant un gros gâteau, mais ça n'est pas que ça. La différence, peut-être communément, mais j'ai pas regardé dans le dictionnaire les définitions, mais c'est l'idée que les chefs, on est plutôt du côté de la restauration, les cuisiniers, c'est peut-être plus au quotidien. Par exemple, quand on parle d'une cantine scolaire, on va parler d'une cuisinière ou d'un cuisinier, non pas d'un chef. Souvent, enfin, les cuisiniers peuvent être des chefs, mais les chefs ne sont pas toujours des cuisiniers. Et puisqu'on a écouté tout à l'heure Paul Bocuse, souvenez-vous de cette remarque où en fait il disait, quand il avait été consultant à Epcot en Floride, donc il allait sortir de son restaurant, ça a été un des premiers comme ça à sortir de son restaurant. Un journaliste lui a demandé, mais qui va cuisiner quand vous ne serez pas là? Il avait répondu, mais le même que quand je suis là. Donc il avait déjà quitté sa cuisine pour faire d'autres choses, quoi. Donc peut-être les cuisiniers, c'est ceux qui mettent la main à la pâte, et les chefs, c'est des gens qui sont plus dans la création. Parfois, les deux termes recouvrent une seule et même personne, et parfois non.
Dans l'ensemble de vos vidéos, vous avez l'impression de rencontrer plus de cuisiniers ou plus de chefs ?
Ah oui, alors moi j'ai c'est une bonne question, parce qu'en fait moi j'ai dit j'aime pas les chefs, parce que parfois certains chefs avec leur grandiloquence et leur ego surdimensionné m'exaspèrent, et j'aime les cuisiniers, les gens qui au quotidien se remettent à la tâche, mais je rencontre les deux, et puis parfois des petits cuisiniers à la campagne sont des très grands chefs.
Y a cette tendance que l'on nomme le food gore, on la voit beaucoup sur TikTok et les réseaux sociaux. En résumé, le food gore, c'est une débauche de bouffe grasse et indigeste, une avalanche de produits industriels, de graisses saturées, d'exhausteurs de goût. Bref, le cauchemar de l'application Yuka et sa variante Nutri-Score. Et si je voulais dire les choses de manière très directe, c'est comme les films gore d'horreur de série B qui surjouent des scènes sanglantes. Qu'est-ce que nous dit cette tendance, notre rapport à la nourriture ?
Un rapport un peu déviant quand même. L'idée, moi je dis toujours, j'aime bien comprendre, arrêtons de manger idiot, comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture, parce que ce qu'on met dans la machine, c'est ce qui fait fonctionner la machine, donc autant le corps en l'occurrence, c'est autant mettre des bonnes choses. En tout cas, quand je vois les vidéos dont vous parlez, je me dis qu'est-ce qui est arrivé à l'humanité, aux humains, pour en arriver là, vraiment. C'est à peu près la même chose que quand je les vois tomber dans des fêtes foraines, en hurlant ou tourner, je me dis, mais comment on en est arrivé là, nous l'humanité? Mais pour la nourriture, c'est beaucoup plus grave, parce que ça fait vraiment du mal à la santé. Et je pense pas qu'il y ait une notion de plaisir, donc je sais pas, c'est une espèce de décadence.
Est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir aider les cuisiniers ?
Je me suis jamais posé cette question, elle est intéressante.
C'est un sujet pour un prochain magazine.
Tout à fait, complètement, parce qu'en fait, il y a une grande pénurie aujourd'hui dans le monde de la restauration. Depuis le Covid, on le sait, il y a de moins en moins de cuisiniers. J'entendais l'autre jour à la radio qu'un restaurant recrutait dans la rue, distribuait des tracts, et disait, vous voulez pas venir travailler en cuisine, vous voyez, sans formation, sans rien, comme on a fait avec les enseignants.
Bien sûr, ouais.
Et donc, si ça pouvait aider, j'arrive pas à voir comment, en plus je connais pas très très bien ce sujet, mais pourquoi pas, moi, rien n'est à vous.
Bien, à lire dans Meilleur sans conseillement, numéro 7, 8, 9 ou 10.
Ouais.
Dernière question, si on s'abonne, enfin c'est pas une question, si on s'abonne à votre revue, il y a notamment une offre, je l'ai vu, qui inclut, au-delà du magazine, un dîner avec vous, Emmanuel, mais aussi ce fameux Mathieu, votre mari que vous citiez. On le voit jamais à l'image. Est-ce que ça serait pas un avatar, par exemple, dopé à l'IA, précisément?
C'est vrai qu'on le voit pas. Alors, les gens disent, mais pourquoi vous montrez pas Mathieu? Au départ, Mathieu, il est derrière la caméra, et comme tous les caméramans du monde, il ne retourne pas la caméra sur lui, on ne les voit pas. Il se trouve que lui s'est mis à parler comme aucun caméraman du monde, et donc les gens ont eu envie de le connaître. Et c'était pas une volonté, mais ça s'est fait naturellement, et aujourd'hui ça nous amuse. C'est pour ça qu'on ne le voit pas, et donc non, il existe vraiment.
Très bien. Bien, un grand merci Emmanuel Jarry d'avoir remis les petits plats dans les grands, et
merci
d'avoir accepté mon invitation pour cette émission de Complètement à l'Ouest. Je rappelle pour la 15e fois que votre magazine trimestriel s'intitule C'est meilleur quand c'est bon. On l'achète en kiosque, au numéro ou bien par abonnement sur le site éponyme. Faites-le, car ça vaut vraiment le coup, et c'est à la fois très fouillé, très foutraque, c'est à la fois très éclectique et très structuré. Il y a des recettes, il y a même une BD, bien sûr des interviews, des analyses, et puis c'est beau, le papier est beau, les photos sont belles. Bref, on le mange littéralement avec les yeux. Vous l'avez compris, c'est obligatoire que de s'abonner ou d'acheter ce magazine. Voilà, c'est dit. Notre émission se termine avec ce mot de la fin. Avec le mot de la fin que je tiens vraiment systématiquement à remercier les techniciens en régie, car sans eux, EUX, rien ne se fait, évidemment. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Mais d'ici là, on garde le cap à l'Ouest, Complètement à l'Ouest.
Complètement à l'Ouest, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria, et sur toutes les plateformes de streaming.